L'écho des campagnes, portrait d'entreprise rurale tournée vers l'ailleurs. Une série produite par Radiola. Nom de l'entreprise.
La Scourtinerie.
Date de création.
1882.
Lieu du siège.
Nuance. Grand Provençal.
Nombre de salariés.
Actuellement, on est presque à 10.
Chiffre d'affaires.
Je crois qu'on était à plus de 300 000.
Forme juridique.
SARL.
Localisation de la clientèle.
On est en zone touristique, donc il y a quand même pas mal de touristes qui viennent visiter et qui viennent acheter nos produits. Bon, en France et même au-delà.
Attends, je leur demande, vous préférez le tonton et la nièce, ou le tonton et la mère, ou le tonton et la fille et... Donc oui, ce serait bien que tu descendes, parce que maman est occupée avec des gens. Bon, bah si vous voulez, on va se caler là. Donc c'est vrai que...
Non, je suis là.
Le musée, c'est là où les gens passent quand ils arrivent, hein, on rentre ici. Et avant, il n'y avait pas le musée. Ce musée date de 2012-2013. Et avant, les gens montaient directement à l'atelier sans savoir vraiment où ils mettaient les pieds, en fait. Et donc là, ça permet une introduction à la famille. Le scourtin, qu'est-ce que c'est? Avant, c'était pas fait avec la fibre de noix de coco, les machines, c'était fait à la main. À quoi ça sert et pourquoi aujourd'hui, on fait des tapis de couleur, surtout.
Il y a quatre étapes dans la fabrication. La première étape consiste à placer les aiguilles. Après, ça va faire comme une roue de bicyclette qu'on va mettre sur le métier à tisser. Là, c'est ce qu'on est en train de voir, c'est l'enroulage du fil. Quand le tapis est fini au niveau de la dimension, on vient le poser sur ce plateau. On retire les aiguilles, on fait passer un fil de chaîne à l'intérieur. Ça libère l'aiguille et puis ça fait l'intérieur du tapis. Et la quatrième étape, c'est sur la table, c'est la finition à la main. La dernière étape, après je prends un crochet et je vais faire une chaînette avec quelques boucles. C'est parce qu'il y en a trop pour passer un fil dedans. Donc ça fait comme un petit décor en plus, c'est joli. Je l'ai appris grâce à mon grand-père et mon père. Voilà, là ça c'est l'arrière-grand-père, là vous avez le grand-père et mon père. Donc ça fait 32 ans que je suis là, dans l'atelier, voilà. Et donc j'ai appris à ma fille aussi, Sophie, c'est la cinquième génération.
Donc ça fait cinq générations. Écoutez, à l'atelier, c'est vrai qu'on a les cadres aussi avec d'autres photos, donc j'ai l'impression qu'ils nous observent un peu, les cadres des fondateurs, surtout Ferdinand et Marie, qui sont là. Avec les ancêtres, c'est très important, parce qu'ils ont pas seulement fondé l'entreprise, ils ont inventé les machines qui sont là-haut, qui continuent à marcher aujourd'hui, alors on les remercie. Alors moi, j'avais commencé les finitions, les petits travaux quand j'avais quoi, 12 ans. Tous les étés, j'aidais un peu ma grand-mère à la boutique. Après, j'ai fait mes études en alternance. J'ai fait un DUT de technique de commercialisation. Il y a 10 ans, on avait, c'était une demi-heure par semaine de mail. Aujourd'hui, c'est toute la journée tellement on a des demandes au niveau de l'informatique, de l'Internet. C'est très important. En plus, Instagram, Facebook, que je suis à fond dessus. Et donc voilà, au début, j'étais là en alternance. Après, j'ai refait un voyage en Australie quand j'avais 18 ans. Ensuite, encore un quand j'avais 22 ans. C'est quand j'étais là-bas que maman m'a appelée et m'a dit « Si tu veux une place à prendre, c'est maintenant. J'ai besoin de toi. » À fond, vraiment pas qu'à mi-temps. Elle s'était fait mal un peu au bras sur une force de travailler trop. Et je lui dis, d'accord, j'arrive. C'était évident. Après, je suis venue. Ça fait 5 ans, je suis jamais repartie, en fait. Et avec ma passion du voyage, ça n'arrête rien. Parce qu'avec... Enfin, tous les ans, on essaie de partir. Avec mon oncle Arnaud, je suis allée quand j'avais 18 ans. Pour la première fois. Après, une deuxième fois sur le retour avec lui. Puis l'année dernière, je suis allée toute seule. Il y a une histoire, une connexion qui s'est faite avec l'Inde, et c'est ce qu'on essaie de faire partager avec les gens quand ils viennent ici, puisqu'ils sont surpris. Mais pourquoi la fibre de noix de coco? D'où ça vient? Pourquoi le Kerala? En fait, c'est grâce à Ferdinand, qui, lui, je pense, hein, Arnaud n'est jamais allé en Inde. Ferdi, il n'a pas pu faire le voyage à l'époque. Tout venait par bateau. Il a découvert la fibre de coco, cette fibre géniale qui nous sert toujours aujourd'hui. Donc ça fait 130 ans qu'on la travaille. Il a découvert ça dans la marine, à Marseille, on suppose, sur les ports, sur les bateaux. Il y a des défenses de bateaux, des cordes de marine qui étaient faites dans cette matière. Alors il y avait le chanvre et le sisal aussi, mais le coco, c'est ce qu'il a choisi, parce que pour fabriquer les filtres, c'est imputrescible, ça laissait ni goût ni odeur dans le pressage, dans l'huile d'olive. Donc c'était vraiment parfait. Et bon, il a posé la question, ça vient d'où? Ça vient du Kerala. À l'époque, il y avait des comptoirs anglais, français, portugais aussi. Et le commerce par bateau se faisait très bien. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de délais que depuis qu'il y a eu le Covid. Ça fait 130 ans qu'on n'a pas de soucis. Et cette année, c'est vrai qu'il y a un petit peu de retard dans l'organisation, mais ça se passe bien. En plus, je vais sur les traces de mon grand-père. Quand je vais voir là-bas, on travaille. On a deux associations qu'on va visiter dans le sud du Kerala, avec lesquelles mon grand-père travaillait. Donc, du coup, de voir cette vieille dame qui me dit eh ben, votre grand-père, quand il venait, parlait pas très bien anglais, il avait son dictionnaire. Donc, imaginez comment c'était là-bas à l'époque où il a fait les premiers voyages.
Moi, je m'appelle donc Arnaud Fer. J'ai intégré l'entreprise après ma sœur. Ma sœur y a travaillé avant moi. Moi, j'y suis rentré en 2000. Le scourtin, en fait, c'est un mot provençal qui veut dire couffin et qui désigne une poche circulaire qui sert à l'extraction de l'huile d'olive. Alors, on ramasse les olives, on les écrase sous la meule, ça c'est la méthode traditionnelle, hein, et la pâte obtenue, on la met dans ces poches circulaires comme un béret, si vous voulez. Il y a un rebord, donc ça fait comme un béret. Ces bérets, on les empile les uns sur les autres, on met sous la presse, et en pressant, tout ce qui est liquide passe à travers l'escourtin, et la partie solide reste à l'intérieur. C'est comme ça qu'on fait de l'huile en première pression à froid. Donc ces escourtins existaient depuis fort longtemps, hein, puisque les Grecs et les Romains faisaient déjà de l'huile comme ça, avec des presses rudimentaires, et les matériaux, ils se servaient notamment d'alfa, c'est une herbe qui pousse un peu dans le sud de l'Espagne et en Afrique du Nord, et cet alfa, était travaillé, c'était de la vannerie, on réalisait ces poches en vannerie, donc, et ça marchait bien, tant que les pressoirs étaient des pressoirs à vis. Et après, donc, il va y avoir une évolution dans les années 1880. Il va y avoir les premiers pressoirs hydrauliques, fabriqués à Aix-en-Provence par Victor Koch. Et là, on arrivait à presser beaucoup plus fort. L'intérêt de presser plus fort, c'est qu'on arrivait à extraire plus d'huile en première pression à froid. Donc, c'est l'huile qui a la meilleure qualité, donc qui se vend le plus cher. Ensuite, avec les résidus, on mélangeait avec l'eau chaude, on repressait. On pouvait tirer encore un peu d'huile, mais une huile de moins bonne qualité. Du coup, l'arrière-grand-père, à ce moment-là, fabriquait avec l'arrière-grand-mère du coutil, du drap. Donc, ils étaient dans une activité de tissage. Et il s'est dit, ce scourtin qui est fait à la main en vannerie avec de l'alpha, on doit pouvoir faire quelque chose de plus solide si on arrive à le tisser. Et c'est là qu'il a réfléchi, conçu, fabriqué, puis breveté sa première machine à tisser les scourtins. Parallèlement, c'est là qu'il va tester tous les matériaux disponibles à l'époque. Donc, il va essayer avec des cordes en chanvre, en sisal, en fibre d'aloès. Et finalement, il retiendra les cordes en fibre de noix de coco. Donc je pense qu'il a vu ça sur les bateaux à Marseille, effectivement, comme cordage d'amarrage. Alors pourquoi le coco? C'est à la fois très résistant, mécaniquement, et en plus, ça craint pas l'eau.
Voilà, et là, on n'a plus qu'à prendre la bonne aiguille, celle qui est recourbée, de façon à glisser un fil dans toutes ces boucles restantes, et ça sera fini. Voilà, vous voyez, là-bas, il y a eu un arrêt automatique. La machine s'est arrêtée quand le tissage arrive au bout des aiguilles. À force de travailler là, on a développé... À l'oreille, on entend s'il y a un problème, s'il y a un nœud, s'il y a quelque chose, si le fil est cassé, que ça continue à tourner sans fil, on l'entend, ça. Le son est différent. passe dans ce petit trou pour la pincer. Voilà.
Là-bas, on dirait une voiture de jeunes mariés.
Ah bon ?
Ça fait vraiment la casserole. non, mais c'est vrai, hein ?
Fred !
Ça a été en fait le gel de février 56, ce gel brutal qui a détruit la quasi-totalité des oliviers en France et même au-delà. Hein, ça a gelé même en Italie, en Espagne sûrement. Il y a eu un printemps beaucoup trop chaud, ce qu'on connaît aujourd'hui. Tout part en végétation et là, vague de froid polaire. On passe dans la journée de plus 12 l'après-midi où on taillait en bras de chemise les vignes pour moins 15, moins 20, moins 25, et ça pendant un mois et demi. Donc du coup, les oliviers qui étaient repartis en sève comme pas mal de végétaux ont l'écorce qui a éclaté. Quoi. Donc c'était même plus que les branches, où c'était carrément l'arbre qui était gelé. Mmh. Voilà. Donc là, du jour au lendemain, ça a été la catastrophe. À Nyons, avant le gel, il y a 10 moulins en activité, de tailles différentes. Hein. Après le gel, il en reste un. Voilà. Quand on ne les a pas arrachés, on a coupé le tronc qui avait gelé. Bon, les racines étaient préservées. Donc après, ça fait des rejets, comme on voit au pied des oliviers. En sélectionnant 3, 4 ou 5 rejets, on est arrivé à reformer des arbres. Mais ça prend une dizaine d'années avant d'avoir une récolte significative. Donc pendant ce temps-là, il fallait survivre. C'est là que l'entreprise a failli disparaître. Il y avait des tas de secourtins, plus personne n'en voulait, les moulins avaient fermé. Bon, il s'était aperçu qu'il y avait une tradition en Provence, les gens récupéraient les vieux secourtins, qui finissaient quand même par s'abîmer, mais qui étaient encore assez bons pour faire des paillassons devant les portes. Et donc l'idée, ça a été, si on essayait de faire des paillassons, il est plus nécessaire d'avoir une poche, c'est là qu'apparaissent les couleurs, pour donner toute une gamme, et c'est... grâce à ça, que l'entreprise va s'en sortir, et la grosse chance qu'on a eue, c'était le film de Jacques Tati. Alors mon père et mon oncle sont partis en fait avec des secourtins, les nouveaux secourtins de décoration, baptisés secourtins de Provence. Dans le film Mon oncle qui se tournait à cette époque-là, ils ont dû trouver ça chez les premiers dépositaires de secourtins parce que ça n'a pas fait non plus, c'était pas évident à placer les secourtins. Je pense que les accessoiristes de Jacques Tati ont découvert ça, ont trouvé que c'était original et moderne et donc ils ont mis en pas japonais dans la maison ultra moderne de mon oncle du film de Jacques Tati. Et à la suite de ça, il y a eu beaucoup de demandes et les gens voulaient savoir d'où venaient ces paillassons ronds, etc. Du coup, il y a eu une demande qui n'existait pas. Enfin, c'était un nouveau produit, c'était pas évident à mettre en place. Les gens avaient l'habitude de paillassons rectangulaires. C'est des fois des idées qui arrivent, comme ça, qui n'étaient pas programmées forcément, mais qui arrivent au bon moment en ce qui concerne la période actuelle. Travaillons ici. On le touche, le matériau. Moi, j'ai besoin de toucher les choses pour les comprendre. Et là, à partir de là, on sent, moi, je suis plus instinctif qu'intellectuel, on sent les capacités. Puis on connaissait aussi les caractéristiques principales du coco. Donc on se dit, là, il peut y avoir des nouvelles applications. Donc c'était dans ce cadre-là que les idées peuvent arriver, je pense.
Qu'il est bon le temps des vagabondages, les courses, les cris, les terrains sans loi. Qu'il est doux le temps des petits voyages, quand mon oncle dit, viens donc avec moi. Oh, qu'il fait bon, près de mon oncle, on va faire un petit tour parmi les rires des faubourgs. On va dans les sentiers des écoliers.
L'écho des campagnes, une série réalisée par Pauline Lemaire-Desmarais et Virginie Bouffard. Avec le soutien de la communauté de communes de Dieulfi-Bourdeaux, l'Union européenne, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le GAL Porte de Provence. Retrouvez les portraits de toutes les entreprises de l'écho des campagnes.
L'écho des campagnes.
Sur www.radiola.media/EDC comme écho des campagnes.